EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bonjour chez vous. Alors me voici encore aujourd'hui comme remplaçante d'Yveline pour cette émission spéciale. Notre thème du jour est « Ton attitude dans l'épreuve fera toute la différence ». Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Mado Lemen, qui va nous apporter la pensée du jour. Par la suite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », c'est son époux, le pasteur Werner Lemen, qui répondra à la question « Un chrétien doit-il forcément passer par des épreuves dans sa vie ?» Par la suite, nous aurons aussi la rubrique « Culture et médias », dans laquelle je vais animer avec nos invités et présenter l'association AIMG, qui est l'Association internationale des ministères de guérison. Alors, vous connaissez le programme, je rejoins les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour Nadine.
Bonjour, bonjour. Bienvenue, Pasteur Mado, Pasteur Werner. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a une très belle émission mardi et aujourd'hui, on va parler de l'attitude dans l'épreuve, c'est ça?
Oui.
Alors, nous allons tout de suite commencer avec vous, Pasteur Mado, dans la pensée du jour. Pasteur Mado, le titre de votre pensée est « Ton attitude dans l'épreuve ».
Oui, fera toute la différence.
Amen.
C'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur, concernant aussi parfois les épreuves qu'on passe tous. Et j'ai pris un exemple d'un acte 16 à 34 qui m'a beaucoup parlé. C'est l'exemple, un exemple extraordinaire de Paul et Silas qui étaient des hommes comme nous et pourtant des exemples formidables que nous pouvons imiter dans chaque situation de la vie. Alors qu'ils servaient le Seigneur dans leur appel et dans l'obéissance, un esprit méchant est venu les oppresser et semer du trouble parmi le peuple. Après les avoir battus et roués de coups, les hommes les jetèrent au fond de la prison comme de grands criminels, les pieds liés dans des entraves. Au regard humain, c'était un échec, une fin tragique. Mais c'était sans compter sur la puissance qui les animait, à savoir le Saint-Esprit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Au plus profond des ténèbres, dans la douleur physique, Paul et Silas sont restés attachés à leur destinée. Les yeux fixés sur la puissance du ressuscité, ils savaient qui ils étaient et qui était leur Dieu, seul capable de les délivrer de la main de l'ennemi. Amen. Beaucoup de gens observent et écoutent tes paroles dans les épreuves que tu traverses, surtout si tu marches avec le Seigneur. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Les portes se sont ouvertes et tous les liens furent brisés. Beaucoup de personnes ont déjà expérimenté le tout à coup de Dieu, mais parfois nous avons besoin de patience et de persévérance, sans comprendre le pourquoi. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu voit bien au-delà de nos vies terrestres. Il a un dessein pour nos vies qui souvent nous dépasse et nous échappe. C'est un plan éternel, avec une espérance extraordinaire. Je t'invite, comme Paul, à fixer tes yeux sur cette espérance glorieuse, sur les promesses de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit est avec toi pour que tu puisses le louer dans l'attente de son intervention. Et j'aime beaucoup cette attitude de Paul et Silas qui, dans cette difficulté, ont fixé leurs yeux sur Dieu. Alors qu'ils étaient blessés, plein de sang, personne ne leur faisait des soins. Ils ont choisi la louange et la prière dans le fond de ce cachot. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu est intervenu dans cette situation.
Amen. Merci beaucoup pour cette pensée tellement extraordinaire. Oui. Parce que vous avez dit dans le titre de votre pensée, « Ton attitude dans l'épreuve fait toute la différence ». Et c'est vraiment l'attitude de Paul et Silas qui était une attitude d'adoration et non de plainte en fait.
Oui. Vas-y, pardon.
Non, mais ça me faisait penser à... Ça fait quelques mois, j'avais raconté l'histoire de ce pasteur coréen de Toronto qui avait fait un voyage en Corée du Nord pour emmener des Bibles et qui avait été incarcéré et qui avait passé plusieurs années en prison. Et il venait juste d'être libéré au mois d'octobre, je crois, l'année dernière. Et il avait vécu quelque chose qui est similaire à ce que Paul a vécu. Et il avait, dans cette épreuve, plutôt vu le bon côté des choses parce qu'il avait tellement passé de temps à lire la parole de Dieu et à prier. Il avait même composé des cantiques pendant son temps d'incarcération, Mais ça avait été un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et pour nous, ça semble un peu surréaliste, en tout cas pour nous, je veux dire pour le genre humain, mm-hmm. c'est quelque chose d'un peu surréaliste parce que on est en général devant l'épreuve, c'est pas la première attitude qu'on a. Première attitude qu'on a devant l'épreuve, ça va être vraiment de s'apitoyer sur son sort, de pleurer, même de crier à Dieu, dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi. Et ces gens comme Paul ou comme ce pasteur coréen sont des exemples de cœurs qui se sont immédiatement tournés vers Dieu, puis qui ont quelque part vécu ce qu'ils professent, hein, c'est-à-dire qu'on croit dans un Dieu puissant et que c'est Dieu leur joie. Mais c'est pas une attitude qui est logique pour un humain standard, j'allais dire. C'est vraiment l'effet de la foi et de la présence de l'Esprit de Dieu dans une vie.
Lorsqu'on rencontre des difficultés, des épreuves, c'est rare de voir des personnes qui se mettent à chanter ou qui se mettent à vraiment louer, ou parce que la première attitude qu'on a souvent, c'est la tristesse, l'inquiétude, c'est regarder les circonstances, etc. Et vraiment, un chrétien, c'est une personne qui a une arme puissante. Dieu est celui qui a créé la louange. Ouais. Dieu est celui qui a créé l'adoration. Et il l'a fait spécialement pour qu'on soit victorieux. La louange, c'est tellement puissant. Quand on voit l'attitude qu'ils ont eue, ils ont décidé de se placer dans une dimension de foi extraordinaire. Et souvent, on voit que les gens se disent « Mais là, je ne peux pas louer, je ne peux pas adorer Dieu. » Ce n'est pas parce qu'on est en train de vivre une épreuve qu'on va chanter « Merci Seigneur pour l'épreuve ». Bien au contraire, on va commencer à vraiment se placer dans des positions, dans des chants de déclaration concernant notre circonstance. J'imagine qu'à ce moment-là, ils ont dû chanter la fidélité de Dieu. Ouais. On voit dans les psaumes qu'il est question, dans l'adoration, de rappeler la fidélité de Dieu. Et souvent, quand les gens ont des problèmes, ont des situations, des difficultés, pensent que oui, l'adoration de l'épreuve, ce serait de chanter « Alléluia, Jésus, tu es bon », etc. C'est des bonnes choses, mais je pense que quand on souffre, quand on est dans des douleurs, c'est pas les premiers chants qui nous viennent. Mais par contre, il y a des chants, il y a des psaumes, il y a des choses qui peuvent nous venir du type « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi ». Moi, je sais que c'est quelque chose qui à un moment d'épreuve dans ma vie, c'est un des chants auxquels je me suis vraiment rattaché. Et ce chant, alors que je n'avais pas forcément la foi, j'ai commencé à le déclarer. Et c'est lui qui est devenu une vérité dans ma vie, plus que les conditions que je vivais. Donc, dans l'épreuve, cette attitude d'être un adorateur fera aussi la différence. Il faut vraiment, c'est une arme, l'adoration. C'est aussi une arme que Dieu nous a donnée, nous a mise à disposition. Il faut s'en servir.
Ben oui, on le voit, le peuple qui est autour de la muraille et qui crie, qui chante les louanges de Dieu. Et c'est vrai, c'est l'attitude, c'est nous-mêmes qui la choisissons. Et ça fait toute la différence dans les épreuves. Comme vous avez dit, c'est que l'humain a tendance à se plaindre et c'est tout à fait normal. Nos yeux voient la défaite, nos yeux voient la maladie, nos yeux voient le manque financier, nos yeux voient les échéanciers, nos yeux voient les enfants qui sont dans la rébellion. Mais l'attitude, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit? Je veux regarder à toi et non à mes épreuves, en fait.
Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est qu'au milieu de la nuit, dans le plus profond des ténèbres, c'est le choix qu'ils ont fait. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Parce que justement, on analyse souvent notre chair, analyse les circonstances. Et puis la deuxième chose au fond de cette prison, c'est qu'ils étaient mis au cœur de la prison. Et au fait, la louange, tout, il est dit dans la parole de Dieu que tous les prisonniers les entendaient. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut réaliser que les gens autour de nous voient notre attitude dans l'épreuve. Et beaucoup, on a l'occasion d'encourager beaucoup de personnes avec notre attitude dans les moments qu'on traverse.
Il me semble qu'il y a une chose qui est importante, parce que beaucoup de chrétiens ont pensé qu'il faut louer, remercier Dieu pour l'épreuve.
Ben non.
Je crois que c'est parce qu'on reste bloqué sur l'image de l'épreuve et notre capacité à le louer, on ne remercie pas Dieu parce qu'on a un problème grave, mais parce qu'on est capable de se projeter et de regarder l'image suivante et de dire, Seigneur, il y aura une solution, il y a un temps où on rentre dans l'épreuve, il y a un temps où on sort de l'épreuve. Et je crois que c'est dans la... Si Paul et Silas ont chanté les louanges de Dieu, c'est pas parce qu'ils étaient en prison. Ils ont chanté, adoré Dieu parce que leur cœur était attaché à ça. Et ils ont vu l'image suivante. La foi nous permet de voir l'image suivante. Et beaucoup de personnes restent plantées dans l'épreuve et n'arrivent pas à louer parce que la seule chose qu'ils ont, c'est l'épreuve. Ils sont pas capables de voir l'image suivante.
Mais Dieu ne change pas. Puis on a la louange à Dieu, elle est due en tout temps. On lui doit en tout temps. Et lui ne change pas. Il est toujours digne de louange et d'adoration. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau dans notre vie, il est le même. Et il mérite toujours. Il est digne de nos louanges. Donc, c'est vrai ce que Pasteur Lehmann disait. Paul, il n'était pas en train de chanter parce qu'il était en prison. Il chantait parce que malgré la prison, son Dieu n'avait pas changé.
Amen, amen.
C'est ça.
Et nous allons tout de suite lire le verset du jour qui est dans Colossiens 1, le verset 11. La Bible dit « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. » Donc, on voit encore là la persévérance, mais l'attitude, c'est la persévérance avec joie, en fait.
Ça. Dieu vous fortifie. C'est Dieu lui-même qui nous fortifie. La Bible dit qu'il mettra des paroles dans nos bouches. Et je pense que ces paroles de puissance, elles viennent aussi par le Saint-Esprit. On voit qu'il y a deux esprits dans le passage que vous avez cité. On voit que c'était un esprit méchant qui avait saisi les personnes pour agir, pour les enfermer. C'est un esprit méchant, quelque chose de ténébreux. Et Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et c'est un autre esprit qui nous anime. Et cet esprit, c'est lui-même qui combattra dans ces situations-là où on voit que les esprits méchants les ont mis en prison, dans la nuit, dans les ténèbres, mais eux ont combattu avec un autre esprit. C'est un esprit de force, de sagesse, de puissance. Et c'est de celui-ci dont on est animé. Et on doit le saisir, on doit le prendre au milieu de l'épreuve, qu'importe les conditions, qu'importe les circonstances, on doit saisir cet esprit de vie qui nous rend toujours victorieux. Ce verset dit « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. » Alléluia. Let's preach.
Et c'est vraiment vrai ce que tu dis. Et je vais tout de suite aller à la citation du jour de Ben Tankard. Ça dit ceci « Goliath n'a pas été envoyé pour tuer David. La mission de Goliath était de rendre David célèbre. » Et c'est vrai, quand on y pense, on se dit « Ah, mais pourquoi ?» Parce que David, en fait, devant Goliath, ça a révélé son attitude à lui. David a fait toute la différence, en fait, devant cette épreuve qu'il avait de se battre contre Goliath, en fait.
Tout à fait. Magnifique. Il y a plusieurs pensées, hein, mais je pense que... Moi, j'ai pensé à l'histoire de l'apôtre Jacques, qui dit « Considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ». Je me suis dit « Mais Jacques, pourquoi tu dis une chose pareille ? Personne ne peut se réjouir de l'épreuve. » Et quand j'ai médité là-dessus, très jeune, le Seigneur me disait « Mais c'est parce que tu es capable de regarder l'étape suivante, tu es capable de regarder plus loin, parce que l'épreuve n'est pas une finalité. » Et c'est important de se rappeler ça, que les crises, que les épreuves dans nos vies ne sont pas une finalité. Quand on, dès qu'on pense que c'est une finalité, puis que le sort s'acharne contre nous, eh bien finalement, c'est là qu'on commence à déprimer, à être triste, à vouloir à Dieu, à penser que Dieu nous a abandonnés. Ce sont des mensonges, parce que c'est les moments où Dieu est vulnérable. Mais tellement important d'arriver à regarder au-delà de la situation présente, considérée comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. Donc il y a des épreuves, il y en a pour tous les êtres humains. Il n'y a pas des gens qui échappent, et puis aucune épreuve. Chaque être humain a un certain nombre d'épreuves dans sa vie, et ce n'est pas toujours le diable non plus. Parfois c'est l'ennemi, mais parfois c'est des circonstances de la vie. Il y a quelque chose qui n'a pas marché comme ça marchait. Parfois j'ai le sentiment qu'on a tendance soit à ne pas parler du mal ou du malin, et parfois, on a tendance à lui donner tout à coup trop de place, à penser que tous nos problèmes, c'est tout vient de lui. Il y a des choses qui sont liées à notre vie humaine, à notre nature humaine, à nos conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Et il y a des épreuves, il y a des difficultés qui arrivent. Et ce n'est pas toujours juste le diable. Et je crois que l'attitude, quand on a l'attitude juste, ça va permettre même que certaines épreuves, finalement, elles vont contribuer à notre bien, elles vont contribuer à notre édification, et puis ce qui semble être une épreuve terrible peut devenir vraiment une bénédiction par la suite.
Puis ce que disait Pasteur Mado aussi, c'est important, c'est que les gens nous regardent, et la façon dont on va traverser les épreuves, ça va être en soi un témoignage. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là, parce que si on s'effondre comme les païens et qu'on se conduit comme des païens, quel va être le témoignage ? Si on professe un Dieu qui est tout-puissant, qui nous aime et qui est le secours dans notre épreuve, il faut que ça se reflète aussi dans notre façon de vivre l'épreuve. Ça fait quelque temps, je lisais une histoire qui était vraiment très, très inspirante, en tout cas. C'était en peu de temps, en fait, après les Actes des Apôtres. Il y avait à Lyon, il y avait un groupe de chrétiens fervents. Et c'était un temps de persécution. Il y avait vraiment une persécution organisée contre eux. Ils étaient martyrisés de toutes sortes de manières, et souvent en public, et ça faisait quasiment un spectacle public. Et il y avait ce témoignage qui était vraiment troublant d'un auteur de l'époque. Et il disait, il y avait une jeune fille qui était une servante chrétienne d'une famille chrétienne qui avait été arrêtée. Et elle avait une foi tellement puissante, cette jeune fille, qu'elle chantait. Pendant ce temps d'épreuve, elle chantait, et ça a tellement touché les gens qui étaient dans le public que plusieurs ont élevé leur voix et se sont même convertis suite à ce, j'allais dire, c'était pas un spectacle malheureusement, mais suite à cette démonstration de foi. Et Elle a été un témoignage et je crois que c'est la dernière de tout le groupe qui a résisté à tout ce qu'on lui a fait endurer. Et jusqu'au bout, elle a chanté des cantiques, elle a chanté des louanges à Dieu et elle a montré une paix. Il paraît que son visage était vraiment très paisible et comme un visage d'ange et tout le monde l'a vu et ça a été un puissant témoignage. Alors là, c'est sûr que c'est l'épreuve extrême, j'allais dire la persécution. On ne passe pas tous et Dieu merci, on ne passe pas tous au travers de ça. Mais quel témoignage puissant et regarde, 2000 ans après, on en parle encore.
Puis l'épreuve, on voit que dans l'épreuve, on peut avoir justement des attitudes qui nous disqualifient. Mm-hmm. Et celles-ci, il faut vraiment les éloigner de nous. On voit que le peuple au désert commençait à murmurer contre Dieu. Et les paroles que le peuple d'Israël pouvait avoir dans le désert, c'était des paroles terribles qui disaient « N'y avait-il pas des tombeaux en Égypte ?» Ou bien « Lorsque nous étions près des marmites de viande » Et ils commencent à considérer des choses qui, finalement, lorsque Dieu a pris une place dans nos cœurs, qu'il a pris cette première place, on commence à le voir et toutes ces choses-là pâlissent à sa lumière. Et on voit qu'à ce moment-là, Dieu a commencé à pâlir à la lumière des choses, des tombeaux, des marmites de viande, des choses alors qu'ils étaient en servitude, ils étaient dans un état de complète servitude, mais ils n'arrivaient même plus à discerner ce qui était rationnel pour eux-mêmes. Ils ne voyaient plus que c'était irrationnel de vouloir retourner dans un pays où ils avaient été esclaves. Ils arrivaient même à le considérer comme quelque chose de bon. Et pour quelqu'un qui vit des difficultés, qui vit des épreuves, c'est important de vraiment se focaliser sur la parole de Dieu, sur ce que dit Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la grandeur, la fidélité, la bonté de Dieu et vraiment de le placer en premier. Sinon, on va se retrouver dans une certaine condition à dire « Oui, mais avant, quand j'avais déménagé, oui, j'ai voulu suivre le Seigneur, on avait déménagé, ouais, mais j'ai déménagé, avant, on gagnait bien notre vie, etc. On a voulu servir Dieu et on se retrouve aujourd'hui et ça, c'est lamentable. On n'aime pas l'appartement parce qu'il est beaucoup plus petit, parce que avant on habitait dans une maison, etc. Et on commence à vraiment cracher justement dans la marmite. Et cette attitude, c'est une mauvaise attitude qu'on peut avoir dans l'épreuve. Et elle fera aussi la différence, c'est-à-dire de nous disqualifier comme les personnes ont été disqualifiées dans cette épreuve du désert. Et Dieu est celui qui veut nous amener dans des étapes glorieuses. Il veut nous amener dans des dimensions plus glorieuses, comme on le voyait dans la citation. D'autant plus que, de par cette citation, on peut voir que Dieu avait déjà préparé David. Mm-hmm. Lorsqu'on disait tout à l'heure dans cette citation que Goliath avait servi à rendre David célèbre. Oui. Donc c'était un instrument pour l'élever dans sa destinée. Mm-hmm. Mais Dieu l'avait déjà préparé avec des ours, avec des lions qui venaient attaquer et tout ça. Donc, il était déjà prêt. Donc, finalement, dans cette situation où on se retrouve dans la prison avec Paul et Silas, on est déjà préparé. Il faut juste se rappeler ses bienfaits, se rappeler les moments où Dieu a déjà manifesté sa gloire. Et c'est le moment là où on y retombe peut-être dans cette épreuve, on commence à se rappeler ses bienfaits. Et je suis persuadé que Paul a dû se rappeler que Dieu est fidèle et bon et qu'il allait les délivrer comme il l'a fait pour Pierre, qui est sorti aussi de la prison. Il s'est rappelé de ces choses-là.
Et c'est vraiment important ce que tu as mentionné, c'est ce que peut nous disqualifier. Et c'est vrai, je pense en ce moment à des gens qui vivent des épreuves et qui, au lieu de s'accrocher à Dieu, sont en train de laisser l'ennemi leur rappeler leur passé pour dire, par exemple, tu t'es sorti d'une relation, que Dieu t'a bien montré que cette relation n'honore pas son nom, mais là, parce que tu es dans un temps de solitude ou dans un temps de manque, tu es en train de reconsidérer des choses, en fait, qui étaient de l'esclavage, qui étaient de la servitude. Mais le peuple d'Israël, rendu à ce moment-là, il reconsidérait, comme tu dis, des choses qui étaient non rationnelles. Mais l'épreuve, des fois, vient nous brouiller, vient brouiller notre regard, vient vraiment changer notre perspective si on n'y fait pas attention. Et on peut se retrouver disqualifié, en fait.
Mais quand tu lis le début de l'Épître aux Hébreux, tu vois que le peuple a tellement irrité les oreilles de Dieu. Il a tellement été en offense à Dieu, en regrettant le temps de captivité, hein, quand il disait où sont les melons, où sont les poireaux, la liste de légumes qu'il regrette. Et en fait, la liste d'épicerie. En fait, ils regrettent des choses matérielles tellement insignifiantes alors qu'ils ont eu la liberté. Oui. Et on ressemble à ça, malheureusement. Mmh. En tout cas, il y a souvent des gens qui ressemblent à ça. Mmh. Et ça irrite. C'est pas seulement que ça nous prive d'une grâce, mais ça irrite l'Éternel. Mmh. Et puis, ça amène aussi de la colère sur nous. Quand tu parlais de disqualification, c'est ça.
Oui. Le danger dans ces moments-là, c'est que finalement, et beaucoup même pour les chrétiens, parfois tout à coup, on dit « Pourquoi Dieu a permis ceci ?» Et je crois que Dieu, nous souvent, n'est pas à l'origine de l'épreuve. Mais tout à coup, on commence à dire, oui, mais Dieu aurait pu faire en sorte que ça se passe différemment. On aurait pu faire en sorte que ça se passe pas du tout, parce qu'il y a des choses qu'on n'aimerait pas avoir dans nos vies. Mais on n'a pas beaucoup d'emprise sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, mais on a de l'emprise sur l'attitude qu'on adopte.
Amen.
Et ça, c'est important.
L'adoration est
un... Il faut faire très attention avec les pourquoi. Parce qu'on pose beaucoup, surtout dans les épreuves qui sont longues et qui durent. J'aimerais rebondir sur le tout à coup. Le tout à coup, il est facile à vivre, mais la patience, elle est difficile. Et c'est dans ces moments de patience et quand on doit persévérer dans, vraiment dans cette présence de Dieu, à garder notre espérance. Et là, j'aimerais vraiment encourager aussi les spectateurs qui nous regardent pour cette émission, vraiment à vous attendre à Dieu, même dans le temps. La patience n'est pas notre vertu. Il n'y a aucun homme qui est né patient. On l'apprend. Et puis Dieu veut vraiment nous former aussi. Je ne dis pas que l'épreuve est là pour nous former intentionnellement de Dieu, mais Dieu prend ces moments aussi pour nous apprendre la patience, pour changer notre caractère, pour nous travailler. Et c'est bon aussi de voir les temps de Dieu qu'il a choisis. Mais arrêtons de lui poser les pourquoi. Parce que j'ai remarqué que dans les grandes épreuves, on n'a pas le pourquoi. Souvent, Dieu ne donne pas de réponse à ces pourquoi. Et on voit que Paul n'a pas choisi, dans ce moment terrible, tout était fini pour humainement, de poser des questions à Dieu. Ils se sont tournés vers leur espérance et vers la gloire qui était pour eux, et pas vers les pourquoi.
Amen. C'est vraiment puissant ce qu'on vient de partager. Et alors, tout de suite, vous m'avez devancé à la question que nous avons reçue dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Nous avons eu une question de Daniel qui pose la question « Un chrétien doit-il forcément passer par des épreuves dans sa vie ?» Alors, Daniel de la Côte d'Ivoire pose cette question à vous, pasteur Werner.
Alors, doit-il forcément passer par des épreuves ? Je crois qu'on n'a pas le choix, chrétien ou non chrétien, il y a des épreuves pour chaque être humain. Et je crois que ce qui est primordial, c'est précisément de dire, souvent, on pense que Dieu envoie l'épreuve. Dieu n'envoie pas l'épreuve, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est avec nous dans l'épreuve. Dieu ne nous a pas abandonnés parce qu'il y a une difficulté. Dieu ne nous a pas abandonnés parce qu'il y a, un décès dans la famille ou parce qu'il y a une situation adverse qui arrive. Nous avons vécu une situation assez difficile à un moment donné. J'avais racheté un domaine agricole, j'étais encore fermier à ce moment-là, avant que je rentre dans le ministère pastoral. Et c'était des bâtiments qui n'étaient pas en très bon état. Et j'ai reconstruit l'habitation, on a fait deux appartements là. Et à côté, j'avais un grand bâtiment qui n'était pas en très bon état. Et quand j'ai fini de reconstruire l'habitation, les assurances sont venues réassurer tous mes bâtiments. Je crois que j'avais 6 ou 7 bâtiments à ce moment-là. Et dans ce vieux bâtiment, ils m'ont dit, sur ce bâtiment-là, on ne peut pas l'assurer s'il y a un problème avec la neige. J'ai dit, mais dès que j'aurai fini l'autre bâtiment, je réparerai. Moi, j'étais un constructeur à côté de mon travail de fermier. Et j'ai réparé ce bâtiment, mais ça restait un vieux bâtiment qui n'était pas en très bon état. Et je crois que c'était au mois de février 99. On a eu 1 mètre de neige. Et il est venu pleuvoir dans la neige. Et ça fait des tonnages énormes. Et il y a une poutre qui a cédé et le bâtiment s'est effondré. J'avais loué ce bâtiment pour mettre des voitures de collection dedans. Et je l'avais loué pour mettre des aquariums dedans, des immenses aquariums. Et tout s'est effondré. C'est une charpente qui descend, c'est des toits qui sont très lourds, c'est de la tuile en terre cuite qui est dessus. Avec 1 mètre de neige, il y a tout qui s'effondre et tout s'est cassé là au fond. C'est apocalyptique. Alors là vient la question, disant « Seigneur, pourquoi ça s'est passé ?» Et puis j'appelle mon assurance, et je dis à mon assurance « Ok, j'ai eu un problème avec la neige. » Et le même soir, dans notre région où nous habitons, il y a 4 bâtiments qui sont effondrés. Et certains bâtiments relativement récents, donc il y avait une charge totalement excessive et inhabituelle pour nous au niveau de la neige et de l'eau qui est venue dans la neige. Et puis j'ai appelé l'assurance, et l'assurance m'a dit « Mais pas de problème, vous êtes assuré. » Et j'étais assuré pour plusieurs centaines de milliers de francs, et je crois que j'étais assuré à 350 000 francs pour ce vieux bâtiment. Et l'assurance m'a dit « Pas de problème, vous êtes assuré. » Il me rappelle une heure après, et me dit « Vous n'êtes pas assuré. » J'ai dit « Comment ça, je ne suis pas assuré ?» Il m'a dit « Il y a une clause sur votre assurance, et je n'avais totalement oublié ça. » Il m'a dit « Il y a une clause sur votre assurance, comme quoi vous n'êtes pas assuré en cas de surcharge de neige. » Parce que ce bâtiment n'était pas en état qu'ils sont venus le voir. Mais moi, j'avais restauré ce bâtiment. Et là, il s'effondre et il semblait que tout s'acharnait contre nous. Les assurances qu'il devait assurer mes locataires se sont retournées contre moi. C'est moi qui ai dédommagé mes locataires. Et l'assurance, au lieu de me donner 350 000 francs suisses, qui équivaut à peu près au dollar canadien, ne m'ont pas donné un franc. Donc je cherche des solutions. Et la nuit, il n'y a pas tout qui descend d'un seul coup. Alors pendant la nuit, ça craque, il y a de nouveau quelque chose qui lâche. Et nous dormions tout près de ce bâtiment, donc on sursautait dans notre lit en disant mais quand c'est que ça va s'arrêter, quoi? Comment est-ce qu'on va faire au milieu de cette situation compliquée? Et nous avons une chanson populaire dans notre pays qui parle d'un homme qui avait un chalet dans la montagne, que ce chalet s'est effondré avec la neige et les rochers. Et cette chanson, elle dit que Jean, d'un cœur vaillant, l'a reconstruit plus beau qu'avant. Et j'ai commencé à dire à ma femme, on fera comme Jean sur la montagne. Et parfois, elle me disait, oui, mais tu vois bien que c'est grave, tu vois bien qu'on n'a plus d'argent, mais comment on va faire pour reconstruire tout ça, etc. Et j'ai toujours dit, je ne sais pas encore comment, mais on fera comme Jean sur la montagne. J'ai demandé de l'argent à la banque parce que je n'avais pas de disponibilité. J'avais investi beaucoup d'argent et la banque m'a dit, on ne peut plus vous prêter d'argent. Alors, je suis allé taper à la porte du banquier et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis connu dans la région où j'habite. Donc, même le banquier était un gars avec lequel j'étais à l'école. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, tu as beaucoup d'argent d'or. J'ai dit, je sais. J'ai dit, vous me connaissez, vous savez que si je vous dis que je vais rembourser, ça sera remboursé. Donc, j'ai dit, il faut me prêter tel montant, je veux reconstruire. Et une semaine après, ils m'ont accordé les prêts. J'ai moi-même travaillé, parce que j'étais un constructeur, j'étais dans le ministère à ce moment-là, quand ça s'est arrivé. Mais j'ai un jour congé par semaine, c'était mon seul jour où j'avais congé, c'est le lundi. Et le lundi, j'étais en bleu de travail, je travaillais, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait toutes sortes de travaux, j'ai fait la démolition complète de cet immense bâtiment qui est sur deux niveaux, sur deux étages. Et puis, on a commencé à reconstruire en disant qu'on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'on allait faire de ce bâtiment. Et puis, mais on a dit, OK, on va le reconstruire. Ça, on sait qu'on va le faire. Donc, une partie, on a fait faire par des entreprises, une partie, j'ai fait moi-même. Et puis, on a reconstruit. Ensuite, j'ai dit, je ne veux pas refaire ce que j'ai fait dans le passé, de relouer ce bâtiment fractionné avec des grands espaces. Et puis ensuite, vous avez quelqu'un qui ne paye pas, c'est difficile. Et j'ai fractionné ce bâtiment en un peu plus de 30 espaces différents. Et j'ai commencé à louer des petits espaces pour mettre des meubles, pour mettre des choses. Beaucoup de gens dans les maisons, dans les villes, etc., n'ont pas suffisamment de place pour réduire leurs affaires. Ils sont tout contents de louer un box comme ça pour mettre leurs affaires. Et j'ai commencé à faire ça. Et aujourd'hui, après quelques années, je dis merci Seigneur, parce que le bâtiment s'est effondré. On n'aurait jamais eu le courage d'attaquer à ça. On ne l'aurait pas osé le faire, parce que c'était un gros travail, un gros défi. Mais la circonstance nous a conduit à le faire. La banque m'a prêté l'argent. L'argent est largement remboursé, plus que remboursé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Mm-hmm. Et je crois que parfois, quand on adopte une attitude juste dans l'épreuve, eh bien, tout à coup, vous réalisez que l'épreuve devient une bénédiction. Mm-hmm. Ce qui apparemment était une épreuve va te conduire parfois dans une étape de vie suivante et tu vas dire « Waouh !» Eh bien, ça, c'est devenu une bénédiction. Mm-hmm. Et je crois qu'il y a... Évidemment, il y a des choses difficiles, il y a des moments où on a envie de pleurer, on a envie de crier, et ça, c'est émotionnel et c'est normal. Et on a le droit d'exprimer nos émotions, puis de dire que, voilà, on n'est pas content, et puis penser de dire c'est génial, que c'est pas génial, c'était pas génial du tout.
Non.
Mais on a choisi de mettre nos yeux et puis dire, Seigneur, on ne laisse pas venir. Vous savez, parfois, j'ai utilisé cette image. J'ai dit, si vous tapez sur le doigt avec le marteau, mm-hmm. on ne dit pas « Alléluia, merci Seigneur » pour que je vous ai tapé avec le marteau. On dit « Alléluia, merci Seigneur » pour ne pas dire autre chose. On ne remercie pas Dieu pour l'épreuve. Mm-hmm. On le remercie parce qu'il est avec nous dans l'épreuve et que chaque être humain, quel qu'il soit croyant, qu'il soit athée, il aura des épreuves dans la vie. Ne soyons pas effrayés des épreuves. Mm-hmm. Dieu a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Amen.
Et veillons à avoir une attitude juste dans l'épreuve. Mm-hmm. Ça, c'est important. Mm-hmm. Et ça, parfois, c'est le seul endroit où on a un pouvoir. Sur la circonstance, on n'a pas de pouvoir. Mm-hmm. Sur l'épreuve elle-même, on n'a pas de pouvoir. C'est arrivé. Mm-hmm. Puis il y a des choses qu'on peut restaurer, puis il y a des choses, parfois, on ne peut pas restaurer. C'est mm-hmm. cassé.
Ça.
Ou quand il y a un décès, ou quand on perd un enfant, ou quelque chose de difficile, ou un divorce dans une famille. Il y a des choses qui arrivent qui sont difficiles. Mais dire, Seigneur, veille à ce que nos cœurs restent attachés à toi, que nous gardions une attitude qui est juste et qui va t'honorer et qui va te plaire.
Amen.
Ça, c'est génial.
Amen. Merci, pasteur. Alors, Daniel, vous avez eu votre réponse et vous avez eu un bon témoignage aussi, vraiment, de votre témoignage que vous avez partagé. Alors, nous allons tout de suite passer à la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, pasteur Werner, habituellement, c'est moi qui fais la rubrique Culture et Médias et je suis assise là-bas. Mais aujourd'hui, on va la faire un peu différemment. On va parler de l'Association internationale des ministères de guérison dont vous êtes le président.
Alors, l'AIMG est une association internationale qui a vu le jour au niveau de l'idée aux États-Unis, mm-hmm. avec une équipe de ministères qui, à un moment donné, ont dit « Nous devrions faire quelque chose qui va promouvoir le fait que partout dans le monde, les chrétiens commencent de nouveau à prier pour les malades. » Et ils ont dit « Ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Il nous faut trouver comment maintenant la mettre en application. » Et ils ont appelé une personne qui avait vraiment un ministère de guérison qui s'appelle... je vais y arriver. Ian Andrews, en Angleterre, qui a un ministère de guérison de longue date, et lui ont dit, voilà ce qu'on a reçu, nous, dans la prière, alors que nous étions ensemble, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose avec ça? Et Ian Andrews s'est mis à prier, et il a fait des expériences surnaturelles dans sa chambre, où Dieu s'est manifesté, il y a eu des manifestations diverses, très, très surprenantes, et il sentait que c'était vraiment quelque chose qui était de Dieu. Mais Ian Andrews, il dit, mais moi, je ne sais pas organiser quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai mon ministère personnel, je prie pour des malades. Et il avait vraiment du succès dans la prière pour les malades. Mais il dit, je ne sais pas organiser une nouvelle association, faire quelque chose comme ça, je ne sais pas faire. Et à ce moment-là, il s'est souvenu d'un jeune homme qui s'appelait Jean-Luc Traxel, qu'il a connu très jeune. Il était avec son papa et il a dit, mais lui, il militait toujours en disant, mais il faut prier pour les malades, Dieu, c'est un Dieu qui guérit, etc. Il avait déjà lu plein de livres tout jeune, etc., par rapport à la guérison. Donc, il appelle Jean-Luc et puis il dit à Jean-Luc, est-ce que tu es toujours enthousiasmé par l'aspect de la guérison? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait faisable? Et Jean-Luc Traxel était à ce moment-là à l'église chez nous. Et Jean-Luc est venu me voir, moi j'étais le pasteur de l'église, et il m'a dit, pasteur Werner, qu'est-ce que tu penses de cela? Moi j'ai vraiment ça à cœur, mais je le ferai seulement si je peux me mettre en association avec toi. Je ne veux pas créer quelque chose qui est séparé de l'église, je veux faire quelque chose qui est attaché à l'église. Donc, mais j'ai dit, écoute, on est là pour l'œuvre de Dieu, on n'est pas là pour notre paroisse, on n'est pas juste là pour notre communauté. S'il y a quelque chose qui peut favoriser l'œuvre de Dieu, on va le faire ensemble. Je suis prêt à te donner une main d'association. Okay. Donc, nous avons commencé à travailler ensemble en 2001. Et Jean-Luc a élaboré tout un certain nombre de choses pour développer cette association, en disant, OK, on aimerait que ce soit une association qui ne soit pas liée seulement à une église ou à un style d'église, mais quelque chose qui va se faire dans l'unité des chrétiens, respectant les catholiques, les protestants, les orthodoxes, etc. Et le but de cette association, c'est prêcher l'évangile. On veut toujours que l'évangile soit prêché d'une façon claire, et on veut ensuite prier pour les malades. Et essentiellement pour les malades physiques, même si nous sommes conscients qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison intérieure, etc. Mais l'AIMG est orienté sur ces deux axes-là, la guérison et l'évangélisation. On veut toujours prêcher l'évangile, on veut toujours qu'il y ait un appel. Alors, nous avons commencé, on savait pas très très bien exactement où commencer, mais en 2003, dans notre petit village, Oron-la-Ville est un petit village de 1500 habitants. Aujourd'hui, ils sont regroupés, plusieurs régions ensemble, ils sont un peu plus nombreux, mais c'est un petit village de l'arrière-pays. Nous sommes à environ 15 kilomètres de Lausanne.
Et c'est là que vous faites vos réunions.
Et en 2003, nous avons fait une première conférence internationale de la guérison parce que nous avions l'objectif de réunir les gens qui étaient impliqués dans le domaine de la guérison. Donc nous avions, je pense, entre 20 et 30 ministères à travers le monde qui sont venus. Et dans ce petit village, on a rassemblé un peu plus de 3000 personnes.
On a justement une vidéo de Jean-Luc Traxel qu'on peut regarder tout de suite.
Je crois qu'on vit dans un temps nouveau, où le Seigneur nous donne des clés pour rentrer dans une nouvelle réforme. Et quand j'ai vu ceci, le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, dis-leur, ils sont la clé. Et ce matin, je débute cette journée vers vous en vous disant, Patrick, tu es la clé. David, tu es la clé. Sophie, tu es la clé. Vous êtes la clé. Jésus est la porte. Mais vous êtes la clé pour ouvrir la porte afin que d'autres puissent passer par cette porte et rentrer dans le royaume des cieux. Et je crois ceci de tout mon cœur, qu'alors que vous êtes dans cette école du surnaturel, le Seigneur va vous donner des révélations, va vous toucher, va vous visiter, pas pour être à nouveau plus béni, mais pour être cette clé que Dieu veut utiliser là où il vous a placé.
Amen. Et on va voir aussi dans les visuels qu'on a des photos, des réunions que vous avez qui sont très bénissantes. Les gens sont guéris. Il y a énormément de témoignages qui sont relayés sur votre site internet, sur votre page Facebook aussi, de tous les miracles qui sont faits dans les soirées de guérison. Je vais tout de suite donner le site internet de ce ministère. C'est healing-ministries.com. Et là, on voit aussi que vous avez, en 2019, là, qui vient, vous avez une grande conférence avec notamment Heidi Baker, Rainer Bonnke, Bill Johnson. Donc, vous avez vraiment ce ministère ou cet appel de réunir des grandes personnes qui prient pour la guérison.
Ça, c'est dans le cadre de nos conférences. Mm-hmm. Et nous aurons cette conférence donc l'année prochaine à l'Ascension à Genève, à l'Arena de Genève, où il y a des possibilités énormes au niveau de place, etc. C'est la première fois que nous ferons la conférence à Genève. Mm. Habituellement, nous faisions la conférence sur Lausanne, mais l'endroit où nous faisions cette conférence, c'est en transformation et on peut plus avoir cet endroit-là. Mm-hmm. Donc, c'est la raison pour laquelle on va à Genève et aussi lié à une parole prophétique qui nous a été donnée, que Dieu allait faire sursortir quelque chose de Genève. Donc, on aimerait être sur cet endroit-là et on se réjouit de cette conférence 2019.
Amen, amen, amen.
Nous avons plusieurs choses que nous faisons dans le cadre de l'IMG. Mm-hmm. Nous avons développé les conférences. C'est quelque chose qui se fait ici et là. Dans un mois et demi, je serai en Afrique de l'Ouest pour une conférence de l'IMG, une conférence en Hollande récemment, une conférence en Allemagne. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des conférences comme ça. L'IMG n'est pas une église, elle ne veut pas devenir une église. Mm-hmm. On veut être au service du corps de Christ, au service des églises. Et nous avons plusieurs produits que nous avons développés. L'une des choses, c'est vraiment des soirées miracles et guérisons. Mm-hmm. Beaucoup de gens nous ont dit, oui, mais c'est prétentieux de dire soirées miracles et guérisons. Mais ce qu'on veut, c'est que on tente vers cela. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, OK, pour tous les malades pour lesquels on prie, ils sont guéris instantanément, etc. Mais nous voyons qu'il y a une progression et des choses dont nous parlions il y a 20 ans en arrière, nous les voyons aujourd'hui. Des choses qui se passaient souvent en Afrique, on entendait des choses qui se passaient en Afrique, qui se passaient peu en Europe. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous les avons en Europe. La puissance de Dieu se manifeste. Je pense que notre foi est en train de grandir. Mm-hmm. Nous avons aussi été confrontés, et nous sommes parfois confrontés à notre incrédulité, mm-hmm. parce que c'est le propre de l'être humain, l'incrédulité aussi. Mm-hmm. Donc, faut faire face à ces choses. Là, mais on a ces soirées miracles et guérisons, et ça, on a développé en beaucoup d'endroits maintenant. On a une visée d'avoir 200 endroits où on a des soirées miracles et guérisons. Et puis, certaines personnes sont un tout petit peu réticentes à ce qu'on fait, mais finalement, commencent à faire la même chose dans leur église, et ça nous plaît beaucoup. Et ça nous réjouit beaucoup, parce que l'objectif, c'est pas que nous, on fasse les choses. L'objectif, c'est que partout dans le corps de Christ, les gens commencent à nouveau à prier pour les malades, à prêcher l'évangile, parce que dans beaucoup d'églises, on ne prêche plus l'évangile, parce que c'est un club fermé. Il faut prêcher l'évangile. Nous avons développé d'autres aspects. Nous avons lancé une ligne de prière où nous prions par téléphone avec les gens. Nous avons dans chaque endroit où il y a des soirées miracles et guérisons, nous avons des équipiers de prière qui prient pour les malades. Nous avons lancé un institut sur la guérison où nous enseignons pendant une année sur 9 journées entières. Nous enseignons sur le domaine de la guérison pour que les gens comprennent, pour que les gens soient formés, etc., et qu'ils se mettent à pratiquer. Parce que je crois pas qu'il y a besoin d'être pasteur pour guérir les malades. Mm-hmm. Dans Marc 16, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Puis un élément particulier, c'est qu'on a eu la faveur de Dieu, et ça fait peur à certains évangéliques. Mm-hmm. On a eu la faveur de Dieu de relationner et de travailler dans le monde catholique. Et nous avons eu l'opportunité de distribuer maintenant des milliers de Bibles au monde catholique. Nous avons des grands rassemblements dans le monde catholique de gens qui ont faim et soif pour dire on veut vivre autre chose, on veut vivre quelque chose de différent. On ne leur demande pas de sortir de l'Église catholique, ils peuvent rester dans l'Église catholique. Nous prêchons l'Évangile et habituellement sur ces deux points-là, la prédication de l'Évangile, de prêcher Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, de prier pour les malades, on trouve relativement vite l'accord.
Et là, les gens ont la possibilité de devenir partenaires aussi.
Alors ça, c'est une autre question. Les gens peuvent être partenaires de prière. Oui. Ils peuvent être partenaires dans un soutien. Mm-hmm. Et je sais que MCI a fait un grand geste récemment pour nous soutenir. Je profite de les remercier sur le plateau. Merci beaucoup. Mais oui, on peut être partenaire à différents niveaux. Mais ce qu'on aimerait surtout, c'est qu'on devienne partenaire dans l'action, c'est que les gens se mettent à dire « je vais prier pour les malades ». Et je crois que là, parfois on a peur parce qu'on a tous prié pour certains malades et on n'a pas toujours réussi du premier coup. Mm-hmm. Je le disais dans une émission, vous savez, j'ai rencontré un homme particulier dans l'Afrique de l'Ouest alors que j'étais conférencier. Et je rencontre cet homme dont j'avais entendu parler de lui. Et il est là, et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il s'appelle David Hogan. Peut-être quelques-uns ont entendu parler de David Hogan. Et je dis, David, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je suis conférencier. J'ai dit, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? J'aimerais te poser un certain nombre de questions. J'ai mon traducteur avec moi. Et David Hogan, dans leur team, ils ont un peu plus de 500 résurrections.
Wow.
Et je dis, David, explique-moi, comment tu fais pour ressusciter les morts? Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il m'a dit?
Est-ce qu'on peut, on pourra en parler à la rubrique « C'est mon histoire »
Je vais juste le dire, oui, quand même. Il m'a dit, Werner, si tu n'apprends pas à échouer, tu ne peux pas réussir.
Ah.
Et j'ai compris que dans la guérison, c'est la même chose. Si on n'a pas la résilience pour dire, OK, Seigneur, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on nous demande de faire, on impose les mains aux malades, on prie avec foi, on parle la foi, on déclare la foi, on exerce l'autorité pour chasser les esprits méchants, pour que la puissance de Dieu puisse s'installer, eh bien, on le fait. Et puis, si on a échoué, on continue.
Amen.
Parce que c'est la seule manière de réussir. Et beaucoup de gens essayent, et j'ai vu beaucoup de mes collègues pasteurs m'ont dit, mais Werner, on a essayé, ça marche pas, donc on laisse de côté. J'ai dit, Dieu nous a demandé de le faire, nous a pas demandé si ça marche, ça marche pas. Ça lui appartient à lui. Notre foi va être mise à l'épreuve, mais on va continuer de le faire.
Alléluia, glory. Merci, pasteur Werner. Vous nous avez boosté pour la fin. Ton attitude dans l'épreuve fera toute la différence. C'est le thème d'aujourd'hui. Et demain, Yveline sera de retour. Et le thème de demain sera « Si tu étais le choix de Dieu » avec la rubrique « C'est mon histoire » avec Alain Odersen. Alors, merci encore d'avoir participé à l'émission et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.